Flicoteau est un nom inscrit dans bien des mémoires. Il est peu d'étudiants logés au quartier latin pendant les 12 premières années de la Restauration qui n'aient fréquenté ce temple de la faim et de la misère. Le dîner, composé de 3 plats, coûtait 18 sous avec un carafon de vin ou une bouteille de bière et 22 sous avec une bouteille de vin. Ce qui sans doute a empêché cet ami de la jeunesse de faire une fortune colossale est un article de son programme imprimé en grosses lettres dans les affiches de ses concurrents et ainsi conçu. Pas à discrétion, c'est-à-dire jusqu'à l'indiscrétion. Bien des gloires ont eu Flicoteau pour père nourricier. Certes, le cœur de plus d'un homme célèbre doit éprouver les jouissances de 1000 souvenirs indicibles à l'aspect de la devanture à petits carreaux, donnant sur la place de la Sorbonne et sur la rue Neuve de Richelieu que Flicoteau, 2 ou 3, avait encore respecté avant les journées de juillet en leur laissant s'éteindre brune, cet air ancien et respectable qui annonçait un profond dédain pour le charlatanisme des dehors, espèce d'annonce faite pour les yeux aux dépens du ventre par presque tous les restaurateurs d'aujourd'hui. Au lieu de ces tas de gibier empaillés destinés à ne pas cuire, au lieu de ces poissons fantastiques qui justifient le modus à ta manque, j'ai vu une belle carpe, je compte l'acheter dans 8 jours. Au lieu de ces primeurs qu'il faudrait appeler post-meurs, exposés dans de fallacieux étalages pour le plaisir des caporaux et de leurs payses, l'honnête Flicoteau exposait des saladiers ornés de mains raccommodage, où des tas de pruneaux cuits réjouissaient le regard du consommateur, sûr que ce mot, trop prodigué sur d'autres affiches, dessert, n'était pas une charte. Les pains de 6 livres, coupés en 4 tronçons, rassuré sur sa promesse du pain à discrétion. Tel était le luxe d'un établissement que de son temps, Molière eût célébré, tant était drôlatique l'épigramme du nom. Flicoteau subsiste. Il vivra tant que les étudiants voudront vivre. On y mange, rien de moins, rien de plus. Mais on y mange comme on travaille, avec une activité sombre ou joyeuse selon les caractères et leurs circonstances. Cet établissement célèbre consistait alors en 2 salles disposées en équerre, longues, étroites et basses, éclairées l'une sur la place de la Sorbonne, l'autre sur la rue Neuve de Richelieu. Toutes 2 meublées de tables venues de quelques réfectoires abbatiales, car leur longueur a quelque chose de monastique, et les couverts y sont préparés avec les serviettes des abonnés passées dans les courants de moirets métalliques numérotés. Flicoteau Ier ne changeait ses nappes que tous les dimanches. Mais Flicoteau II les a changées, dit-on, 2 fois par semaine dès que la concurrence a menacé sa dynastie. Ce restaurant est un atelier avec ses ustensiles et non la salle de festin avec son élégance et ses plaisirs. Chacun en sort promptement. Au-dedans, les mouvements intérieurs sont rapides. Les garçons y vont et viennent sans flâner. Ils sont tous occupés, tous nécessaires. Les mets sont peu variés. La pomme de terre y est éternelle. Il n'y aurait pas une pomme de terre en Irlande, elle manquerait partout qu'il s'en trouverait chez Flicoteau. Elle s'est produite depuis 30 ans sous cette couleur blonde affectionnée par Titien, semée de verdure hachée et jouit d'un privilège envié par les femmes. Telle vous l'avez vue en 1814, telle vous la trouverez en 1840. Les côtelettes de mouton, le filet de bœuf, sont à la carte de cet établissement ce que les coques de bruyère, les filets d'esturgeon sont à celle de Véry. Des mets extraordinaires qui exigent la commande dès le matin. La femelle du bœuf y domine, et son fils y foisonne sous les aspects les plus ingénieux. Quand le merlan, les maquereaux donnent sur les côtes de l'océan, ils rebondissent chez Flicoteau. Là, tout est en rapport avec les vicissitudes de l'agriculture et les caprices des saisons françaises. On y apprend des choses dont ne se doutent pas les riches, les oisifs, les indifférents aux phases de la nature. L'étudiant, parqué dans le quartier latin, y a la connaissance la plus exacte des temps. Il sait quand les haricots et les petits pois réussissent, quand la halle regorge de choux, quelle salade y abonde et si la betterave a manqué. Une vieille calomnie, répétée au moment où Lucien y venait, consistait à attribuer l'apparition des beefsteaks à quelques mortalités sur les chevaux. Peu de restaurants parisiens offrent un si beau spectacle. Là, vous ne trouvez que jeunesse et foi. Que misère gaiement supportée, quoique cependant les visages ardents et graves, sombres et inquiets n'y manquent pas. Les costumes sont généralement négligés. Aussi remarque-t-on les habitués qui viennent Miami. Chacun sait que cette tenue extraordinaire signifie maîtresse attendue, partie de spectacle ou visite dans les sphères supérieures. Il s'y est, dit-on, formé quelques amitiés entre plusieurs étudiants devenus plus tard célèbres, comme on le verra dans cette histoire. Néanmoins, excepté les jeunes gens du même pays réunis au même bout de table, généralement les dîners ont une gravité qui se déride difficilement, peut-être à cause de la catholicité du vin qui s'oppose à toute expansion. Ceux qui ont cultivé Flicoteaux peuvent se rappeler plusieurs personnages sombres et mystérieux, enveloppés dans les brumes de la plus froide misère, qui ont pu dîner là pendant 2 ans et disparaître sans qu'aucune lumière ait éclairé ces farfadets parisiens aux yeux des plus curieux habitués. Les amitiés ébauchées chez Flicoteaux se scellaient dans les cafés voisins aux flammes d'un punch liquoreux ou à la chaleur d'une demi-tasse de café bénie par un gloria quelconque.